Je vous présente mes meilleurs vœux et je souhaite que le Seigneur continue à diriger vos vies. Il le fait si bien. Alors, faisons-lui confiance pour la suite de notre marche avec lui. Et on continue dès à présent avec l'autre PowerPoint, s'il te plaît. Merci. On continue avec notre étude du livre de la Genèse, chapitre 37. On est arrivé à l'évangile selon Joseph. Ah, extraordinaire. Vous savez, après tout le moment, que toutes les histoires de Jacob qui sont tellement parfois tourmentées, de trouver Joseph, c'est un moment exquis pour les prédicateurs en tout cas. Et je vous propose de faire la lecture donc du chapitre 37. On va le faire en entier. Accrochez-vous. Ne ratez rien. Genèse 37, verset 1er. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femmes de son père. Et Joseph rapportaient à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères, et il dit, « J'ai eu encore un autre songe. Et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères, et son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi ?» Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph, étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Me voici. » Israël lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras les nouvelles. » Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra, comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, « Que cherches-tu ? » Joseph répondit, « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau ?» Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, « Allons à Dothan. » Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez, maintenant, tuons-le. » Et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses songes. » Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit, « Ne lui ôtons pas la vie. » Ruben leur dit, « Ne répandez point le sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. » Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent, le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang ? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit « L'enfant n'y est plus, et moi où irai-je » Ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire « Voici ce que nous avons trouvé, reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob la reconnut et dit « C'est la tunique de mon fils. » Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Et il déchira ses vêtements et il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Voilà jusqu'ici la parole de Dieu. Ici commence la dernière grande section du livre de Genèse avec l'histoire extraordinaire de Joseph. C'est probablement l'une des plus belles histoires de toute la Bible, de tout l'Ancien Testament. Avec celle d'Esther, elle met en évidence de façon magistrale la souveraineté de Dieu. Et pour illustrer ça, j'aimerais vous présenter une petite vidéo. Michael Révard, un artiste.
Bravo, monsieur.
Merci beaucoup.
Grande classe.
Merci.
Vous m'avez impressionné.
Magistral, magnifique, artistique. Le fait de nous faire attendre pendant 2 minutes pour qu'il y ait une chute à la fin, vous ne trouvez pas que c'est un désavantage énorme?
Il y a d'autres peintres qui justement travaillent avec de la couleur. Et moi, j'ai voulu me différencier et je trouvais que c'était intéressant de découvrir le portrait qu'à la dernière seconde. Donc,
c'est le principe de votre technique.
Vous avez un point. Je dois dire que vous avez un point.
Alors, merci. Le verdict. Pour moi, c'est un oui.
Oui, 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 oui. Pour moi, ça serait non. Je suis désolé.
Je dis oui.
Merci.
Voilà, juste cette petite vidéo pour illustrer un peu comment Dieu procède. C'est le principe même que Dieu utilise pour révéler la grandeur de sa souveraineté. On a parfois le sentiment que dans nos vies, rien n'avance plus. Que les choses même se détériorent. On comprend pas tout ce que Dieu est en train de faire. Le tableau reste confus. On n'arrive pas à discerner les choses. On ne comprend pas. Jusqu'au moment où, par un dernier coup de pinceau, toute la fresque se révèle et nous subjugue. Dieu accomplit encore son plan de rédemption aujourd'hui. Un plan extraordinaire. Et nous, nous faisons partie du tableau. Nous faisons partie de ce tableau merveilleux une grande fresque qui a commencé dans l'éternité passée, qui va se poursuivre. Et dans le livre de la Genèse, on commence ici la fresque de l'histoire de Joseph. Et au début, on comprend rien. Les choses se semblent mal tourner pour lui, quoi. On peut pas imaginer que les affaires aillent plus mal. Et puis quand on tourne jusqu'à la fin du chapitre, juste du livre, chapitre 50 et verset 20, quasiment les derniers versets du livre, voilà ce que Joseph dit. C'est comme si c'est le moment où il prend un peu de recul et puis qu'il jette les paillettes là sur cette colle et puis tout s'éclaire. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Dieu est en train d'accomplir un plan de rédemption. Il est en train de sauver les hommes de toute la terre. Il est en train d'accomplir une œuvre magnifique, extraordinaire, dans laquelle nous faisons partie. Et parfois, nous sommes confus. On ne comprend pas tout ce que Dieu est en train de faire. Ici, dans ce tableau, c'était vraiment l'intention de Dieu que Joseph et toute la famille d'Israël se rendent en Égypte. Et au fond, Dieu a fait prendre un billet pour l'Égypte à Joseph. Et la fin du chapitre termine simplement, ça y est, Joseph est arrivé à bon port, à destination. Cette intention de Dieu, elle était révélée déjà à Abraham en Genèse 15, versets 13 à 16. Il lui avait dit que c'était son intention de conduire la famille choisie sous la domination de l'Égypte pendant 400 ans. Jusqu'à ce que l'iniquité des Amoréens soit parvenue à son comble, et alors il délivrerait Israël du joug des Égyptiens. Vous pouvez imaginer ça? Dans le plan de Dieu, dans la fresque de Dieu, il dit, attends, Abraham, je t'ai choisi, toi, ta famille, pour être une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Et puis, voilà comment ça va se passer. Dans quelque temps, toi et toute ta famille, vous allez partir en Égypte, et là-bas, vous serez esclaves pendant 400 ans. Vous rendez compte? 400 ans. Dans le plan de Dieu, 400 ans en Égypte, ça reste et demeure la grande fresque qu'il est en train de peindre. Et parfois, dans nos vies, on se retrouve comme cela dans des situations, oh, c'est pas 400 ans pour nous. Mais parfois, c'est 4 ans, 40 ans, des choses où on ne comprend pas ce que Dieu est en train d'accomplir. On ne comprend pas son œuvre, on ne comprend pas son dessein, jusqu'à ce que les paillettes elles soient jetées. Et puis là, on est émerveillé. On peut juste contempler et adorer et se prosterner et se réjouir. Moïse, quand il poursuit le récit donc de la Genèse, le peuple à ce moment-là, il est au désert. Hein, ils ont quitté l'Égypte et ils sont en train de marcher au désert. Et donc, certainement, ce récit a pour but de montrer comment Dieu a souverainement conduit son peuple en Égypte pour que celui-ci reconnaisse qu'il va aussi souverainement le conduire en terre promise. Et pour ce faire, il se choisit un nouveau leader dans la personne de Joseph. Et on va voir ce matin, si vous voulez bien, que Joseph, ce nouveau leader, est l'objet de l'amour particulier de son père. On verra ensuite qu'il est l'objet de la jalousie et de la haine de ses frères. Et puis enfin qu'il est l'objet des soins providentiels de Dieu. Regardons d'abord l'objet de l'amour particulier de son père. Ça se voit au verset 3, il dit « Israël aimait Joseph plus que tous ses frères, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. » C'était le petit chouchou, le petit dernier, quoi. C'est le 11e sur les 12, mais le 12e, il est encore vraiment bien plus loin. Alors, c'est le petit préféré, hein, dans les familles. On préfère le petit dernier, celui qui vient de naître. C'est celui-là qui attire toute l'attention. les ados, ils sont déjà un peu boutonneux, un peu tout ça. Alors, on n'y prête plus trop attention, mais le petit dernier, il attire tout le monde. Mais c'est plus que ça pour Israël. C'est bien plus que ça même. C'est le fils de son épouse préférée. C'est celle pour laquelle il avait travaillé cette année, Rachel. Et puis elle est décédée lors de la naissance de Benjamin, du dernier. Mais c'est encore plus que cela. Pour Jacob, il dit ici qu'il lui a fait, il lui a tissé lui-même une tunique de plusieurs couleurs. Chose qu'il n'a pas fait pour ses frères. Et regardez un verset en 2 Samuel 13, verset 18. Je lis en 2 Samuel 13, 18. C'est une histoire sombre dans la famille de David. C'est l'histoire de Tamar et d'Amnon. Elle, verset 18, elle, Tamar, avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le vêtement de plusieurs couleurs, c'était une distinction vraiment particulière. Et dans la pensée de Jacob, quand il lui fabrique cette tunique, c'est une tunique qui fait de Joseph le 11e fils, celui qui dirigera la famille. Au fond, il le fait héritier de toute la famille. Et quand vous étiez héritier, vous aviez le leadership, et puis vous aviez aussi une double portion. Et du coup, les frères sont scandalisés. Les trois frères aînés, les fils de Léa, Ruben, Siméon et Lévi, ils se sont disqualifiés dans les chapitres précédents. Et donc là, ils ont la haine. On doit reconnaître que le favoritisme d'un père ou d'une mère est destructeur. Ne faites pas ça dans vos familles, c'est destructeur. Et on doit se souvenir d'une chose, c'est que vous pouvez être deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième pour les nouvelles, dans la fratrie, mais dans le cœur de vos parents. Vous ne pouvez pas être deuxième, troisième, quatrième. Dans le cœur de vos parents, vous avez une place privilégiée. La même place que tous les fils, que toutes les filles. Vous devez avoir gardé ça en tête. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il ne veut pas faire de favoritisme. Il ne veut pas que nous faisions du favoritisme. Sans cela, on crée de grands dysfonctionnements dans la famille. Ce qui est étonnant, c'est que Jacob a lui-même souffert du favoritisme de son père, et pourtant il a reproduit ces choses. Mais il est évident aussi que Dieu fait des choix, et qu'il les fait lui avec une parfaite sainteté et justice, chose que nous ne pouvons pas faire, nous les hommes pécheurs. Ces choix, nous ne les comprenons pas toujours, mais ses choix, ils sont toujours en harmonie avec l'ensemble de son caractère. Dieu est infiniment sage, il est parfaitement juste, il est aimant. On voit qu'il a choisi Abraham, c'est un païen, Abraham. Il l'a choisi, et puis il l'a béni, et puis il s'est révélé à lui. Et puis il a choisi Isaac, il n'a pas choisi Ismaël, le fils aîné mais il a choisi Isaac, puis il a choisi Jacob et non pas Ésaü, et puis maintenant il choisit Joseph et non pas l'un des 10 frères aînés de Joseph. Et il nous a choisis, nous, pour être ses enfants d'adoption, de sorte que toute la gloire lui revienne. Ici, au début du chapitre et de l'histoire de Joseph, il y a les récits des rêves sont très importants. Et pourquoi est-ce qu'ils sont très importants? C'est que le fait que Dieu ait révélé à Joseph ce qu'il va faire avec lui dans l'avenir montre que c'est Dieu qui est aux commandes. que c'est Dieu qui l'a choisi. C'est pas parce que Joseph est formidable. On pourrait, je sais pas si il était un petit peu rapporteur quand même. Peut-être qu'il n'avait pas besoin de dire, hey, écoutez, le songe que j'ai eu, hein, ça va vous plaire. Mais j'en ai eu un deuxième. Vous voulez l'entendre aussi? Bon, peut-être qu'il n'était pas tout à fait saint, hein, Joseph. Mais Dieu l'a choisi. Dieu l'a choisi. Et ses rêves sont très importants parce que il nous montre que ce n'est pas le récit du succès d'un homme, mais de la souveraineté divine dont il est question ici. Il est question du Dieu majestueux qui accomplit son dessein parfait au travers d'un leader qu'il s'est choisi et qu'il conduit parfaitement, utilisant même l'opposition et la méchanceté des hommes. Ça, c'est véritablement le message de l'histoire de Joseph. C'est le message qui doit nous fortifier en ce début d'année. Dieu accomplit son plan parfait, même au travers de la méchanceté et de l'injustice des hommes. La deuxième pensée qu'on pourrait regarder ce matin, c'est qu'il est l'objet de la jalousie et de la haine de ses frères. Quand Dieu choisit quelqu'un pour une œuvre particulière, il provoque fréquemment l'envie et la haine chez ceux qui se sentent mieux qualifiés pour ce poste. Vous avez vu les versets, verset 4, il dit « Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. » Joseph eut un songe, il le raconta à ses frères, ils le haïrent encore davantage. Verset 8, ses frères lui dirent « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Et puis verset 11, ses frères eurent de l'envie contre lui. Les trois raisons de cette haine, on la trouve au verset 2, à cause des mauvais rapports que Joseph fait de ses frères. Les commentateurs sont un peu partagés sur est-ce que Joseph est en train de calomnier ses frères? Est-ce qu'il est en train de faire des mauvais rapports, quoi que ses frères fassent? Ou est-ce que ses frères sont vraiment tordus et rapportent fidèlement les actes tordus de ses frères? Est-ce que Jacob l'a chargé de lui faire un rapport? Moi, j'opterais plus pour cette pensée-là. Il y a un verset en Lévitique, chapitre 5, où on lit « Lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme témoin, péchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il restera chargé de sa faute. » Ici, c'est comme si Jacob avait fait jurer à Joseph de faire un rapport concernant les paroles et les actes de ses frères. Et on n'a pas de mal à croire, en considérant comment ils vont traiter Joseph par la suite, qu'ils ne sont pas sans faute et qu'il y a souvent des choses à raconter à son père. La deuxième raison, c'est à cause de sa tunique. Cette tunique rappelle constamment à ses frères qu'il est le favori, qu'il est le chouchou, qu'il est celui qui doit, aux yeux de son père même, hériter et conduire la famille. Il y a une précision ici, il dit « Ils ne peuvent lui parler avec amitié » ou selon d'autres traductions, « Ils ne peuvent lui parler sans hostilité ». Vous imaginez, vous faites partie d'une famille nombreuse, il y a 12 frères à table, mais on vous adresse jamais la parole. Papa dit à Joseph de me passer le sel. Mais on ne vous parle pas. On ne vous calcule pas. Ça, c'est ce que vit Joseph en permanence. La troisième raison de cette haine, c'est ses rêves. Tout le monde rêve. Mon rêve, j'étais comme ça, peut-être vous faites des rêves pour l'année 2017. Je me voyais déjà en haut de l'affiche comme l'aurait chanté Aznavour. Mais ici, ce ne sont pas des rêves comme tout le monde fait. Ce sont des rêves prémonitoires. C'est des rêves par lesquels Dieu est en train de se révéler, en train de parler à Joseph. Et son père, lui, il est même quand même surpris de ses rêves, pour le moins. Ils ont tous très bien compris, il n'y a pas de difficulté au niveau de l'interprétation. Toutes les gerbes se prosternent devant celle de Joseph. Le soleil, la lune, les 12 étoiles, là, 11 étoiles se prosternent devant son étoile, devant lui-même. Oh là, hey, Joseph, tu prends pour qui, là? Et son père, même s'il trouve culotté de la part de son fils de rapporter ces choses, son père, il garde ça dans un coin de sa tête. Jacob, il sait que Dieu parle par des rêves. Il a lui-même connu des rêves. Dieu lui a déjà parlé par des rêves qui se sont réalisés. Et la chose qu'on trouve dans ces deux rêves, qui est commune aux deux, c'est l'acte de soumission de toute la famille devant Joseph, qui est devenu l'autorité. Le fait que le rêve soit répété deux fois montre que la chose ne manquera pas d'arriver. Hein. Vous vous souvenez que dans la suite du récit, Joseph interprète les rêves de Pharaon. Et au chapitre 41, verset 32, il dit « Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. » C'est le même sens ici pour Joseph. Les choses vont se faire et elles se sont faites. Chapitre 43, verset 26, les frères de Joseph arrivent en Égypte, eux aussi. Et verset 26, il dit « Quand Joseph fut arrivé à la maison, ils lui offrirent le présent qu'ils avaient apporté. Et ils se prosternèrent à terre devant lui. » Les choses vont s'accomplir exactement comme les rêves l'ont signifié. C'est difficile de se réjouir de l'élévation de son frère. La jalousie remplit bien vite nos cœurs, à nous aussi. Lorsque mon frère trouve du travail et pas moi, lorsque la promotion et l'honneur sont donnés à mon collègue et pas à moi, que ma copine reçoit une meilleure note que moi à l'exposé que l'on a fait ensemble, la jalousie, ça c'est un sentiment qui s'installe rapidement dans nos cœurs. Il y a toujours quelqu'un que nous pouvons envier, quelqu'un que l'on peut jalouser, plus beau, plus riche, plus talentueux, plus performant, plus apprécié. Et on a besoin d'apprendre que Dieu fait grâce à qui il veut et qu'il élève et abaisse comme il veut. Et que sa volonté, elle est toujours sage, juste et bonne. La jalousie des frères les a conduits à vouloir la mort de Joseph. Les pharisiens, eux, ils ont livré Jésus par envie. Celui que Dieu s'était choisi, le seul juste, celui qui était humble et doux de cœur, celui qui ne fit que du bien, celui qui mourait pour nos fautes, il a été livré par envie, par jalousie. Enfin, Joseph, il est l'objet des soins providentiels de Dieu. Imaginez la réaction de Joseph lorsque son père lui demande de faire cette visite à ses frères. Il sait que ses frères le haïssent. Il ne lui parle pas. En allant là-bas, leur rendre visite, il va se retrouver à leur merci. Et qu'est-ce qu'il dit ? Me voici. Tu veux m'envoyer vers mes frères ? Me voici. Okay. Tellement obéissant. Et puis il part, et au moment où il se retourne, il dit au revoir à son père, il lui dit au revoir pour 20 ans. Vous imaginez la chose ? Son père lui dit, tu pars, tu les visites, puis tu reviens. Il y a 80 kilomètres entre Hébron et Sichem. Il y en a 24 de plus pour Sichem jusqu'à Dothan. Grosso modo, il part une semaine. Mais là, il lui dit pas à dimanche prochain. Il part pour 20 ans. Vous imaginez ce que ça peut représenter, 20 ans à ce moment-là? Il le sait pas, lui. Il part pour 20 ans. Et l'épisode de la rencontre a simplement pour but, je crois, de montrer l'obéissance et le dévouement de Joseph. Hein. Il tombe sur quelqu'un, il cherche là à Sichem, ses frères. Que cherches-tu? Et j'aime sa réponse, il dit « Je cherche mes frères. » Ils ne sont pas là où ils étaient supposés être. Et la réponse est, je les ai entendus dire qu'ils partaient à Dothan. Dothan, c'est un peu plus encore au nord et plus vers la côte. Et Dothan se trouve sur la route des caravanes qui font le voyage le long de la côte entre la Syrie et puis l'Égypte. S'ils étaient restés à Sichem, ils n'auraient probablement pas vu cette caravane d'Ismaélites. On ne sait pas pourquoi, mais les frères qui devaient être à Sichem sont allés à Dothan. Mais le fait qu'ils soient allés à Dothan ont permis qu'ils croisent cette caravane. C'était le billet direct, aller simple, pour Joseph vers l'Égypte. C'est souvent comme cela dans nos vies. Des contretemps, problèmes de lieux, des rendez-vous manqués, et Dieu reste aux commandes de nos vies. Et il dirige et son plan est en train de s'accomplir comme cela. Ses frères le repèrent de loin, ça c'est grâce à la tunique, hein. Super. Et ils se disent « Ah, ben voilà le faiseur de songes, laissons-le arriver, et puis on le massacre, on le tue juste, et puis comme ça, on sera débarrassé de ses songes. » Et à partir de ce moment-là, Joseph, il est comme la souris entre les pattes du chat. Il n'a plus aucun pouvoir sur les choses. Il ne contrôle plus rien, il est entièrement à la merci de ses frères, qui lui en veulent à mort. Il y a bien Ruben qui tente de le sauver de la mort. Il est animé de bons sentiments, semble-t-il, peut-être parce qu'il est en tant qu'aîné, il sait qu'il va être rendu responsable, hein, tous les aînés savent ça. Quand il arrive quelque chose au plus petit, c'est toujours l'aîné qui est responsable. Et donc il se dit, ah, ça va retomber encore sur moi. Donc il s'est dit, bon, je vais me débrouiller pour lui sauver. Et puis, peut-être aussi que il pense que c'est une occasion de se racheter. Dans le chapitre 35, il a commis une faute terrible. Il est le fils aîné, Ruben. Mais il a couché avec une concubine de son père. Et ça, faut pas faire. Il est disqualifié aux yeux de son père. Et du coup, il se dit, si jamais je sauve Joseph, Joseph va revenir devant son père, puis il va lui raconter encore tout le mal que les frères ont voulu lui faire. Mais que Ruben l'a sauvé. Alors là, peut-être que les choses vont changer, peut-être que Ruben reprend la place de leader dans la famille. Ça, ce sont des suppositions. Mais en deux versets, le sort de Joseph est réglé. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans tout le passage, à partir du verset 18, au moment où Joseph rencontre ses frères, on n'entend plus parler de Joseph ne parle plus. Il ne dit plus un mot. On sait pourtant qu'il a parlé. Il a même supplié ses frères. Au chapitre 42, il nous est rapporté ceci, verset 21. Les frères se dirent alors l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. Et c'est pour cela que cette affliction nous arrive. Oui, nous avons entendu, nous avons vu l'angoisse de son âme, nous avons entendu ses supplications. » Et eux, verset 25, ils s'assirent ensuite et ils ont mangé. Vous pouvez vous mettre à la place de de ses frères, là. Si c'est votre frère, vous le jetez dans une citerne avec l'intention qu'il y meure. Et puis vous passez à table. Et puis vous reprenez deux fois des frites parce que ça vous a creusé tout. Vous pouvez imaginer ça? Il faut avoir un cœur. Un cœur de pierre. Il y a des choses qui devraient nous couper l'appétit pour un moment. Mais non. Eux, ils sont... Ils passent à table. Verset 26, il y a Judas qui propose alors de le vendre pour 20 cycles d'argent. Quelles sont les intentions de Judas? Il semble... les paroles de Judas, c'est simplement, écoutez, ça nous sert à rien, là. Au moins, on pourrait gagner un peu d'argent avec cette affaire-là. C'est juste business. Et donc, il décide de le vendre. 20 cycles d'argent, c'est le prix d'un esclave. Et c'est aussi le prix de leur silence. Ça fait 2 cycles par personne. Ils peuvent rien faire avec, mais c'est le prix de leur silence. Ruben n'était pas là pour au moment de la transaction, mais il a probablement reçu aussi ces 2 pièces à son retour. Les fausses preuves sont envoyées au père, qui fait les conclusions souhaitées. Joseph a été mis en pièces par une bête féroce. Mettez-vous à la place de Joseph à ce moment-là. Où est Dieu? Mais où est Dieu? J'obéis à mon père. Je vais prendre des nouvelles de son troupeau. Je vais prendre les nouvelles de mes frères. Ils me jettent dans une citerne, ils me vendent comme esclave. Me v'là en Égypte, en route pour l'Égypte. Où est Dieu? T'avais dit que mes frères, ils allaient se prosterner devant moi. Et maintenant, je suis esclave. C'est moi qui me prosterne devant des étrangers. Où es-tu? Pourquoi mon père m'a-t-il envoyé vers eux? C'était risqué quand même. Pourquoi n'a-t-il pas répondu à ma prière lorsque j'étais au fond du trou, quand j'ai supplié mes frères et quand j'ai imploré mon Dieu de me sortir de là? Comment a-t-il pu les laisser me vendre? Toutes ces questions sont certainement dans la pensée de Joseph. Où est Dieu? Et Dieu reste aux commandes. Le verset 36 nous laisse entrevoir simplement la splendeur de l'œuvre. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Le décor est planté, on a l'Égypte, on a Potiphar, l'accès à Pharaon. Extraordinaire. On connaît la suite, mais les choses commencent déjà à se dessiner. Ça, c'est le plan de Dieu. Vous êtes peut-être dans une situation pour laquelle vous n'avez plus aucune maîtrise. Et il y a certainement des circonstances en 2017 au travers desquelles Dieu va vous conduire, qui vous seront incompréhensibles. Vous aurez le sentiment d'être comme Joseph, livré entre les méchantes mains de vos frères. Mais ne buzez pas trop vite. Vous vous souvenez dans la vidéo? Il a buzé trop tôt, le gars. Il a trouvé nul trop tôt. Et il lui dit, oui, t'as raison, ouais. Mais je peux pas revenir en arrière sur ma... Ne buzzez pas trop vite. Souvenez-vous, Dieu dirige. Dieu maîtrise. Dieu maîtrise parfaitement les circonstances et les événements de vos vies. Il maîtrise même les mauvais désirs de ceux qui vous entourent. Les méchancetés des hommes qui vous entourent. Il maîtrise les échecs. Il maîtrise le temps. Et en son temps, il fera éclater la splendeur de son œuvre.
Et peut-être la leçon pour nous, c'est d'avoir la même attitude que celle de Joseph. On sait qu'il a parlé, mais Moïse n'a pas rapporté aucune de ses paroles dans ce récit-ci. Simplement pour nous signaler, ne contestez pas. Ne discutez pas. Faites confiance. Faites confiance au Seigneur. Oh, nous on sait que on va s'agiter quand même. On va faire des pieds et des mains comme Joseph dans son trou. Mais Dieu est aux commandes. Jésus, le bien-aimé du Père, il a lui aussi été envoyé pour chercher ses frères. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Il a été livré par envie et il a été crucifié. Mais ne buzzez pas trop vite. Il est ressuscité. Il est ressuscité et il a accompli notre salut. Il nous a délivrés de la mort et il nous conduira aussi dans sa présence. À aucun moment, il n'a échappé aux soins providentiels de Dieu. Et à aucun moment de cette année 2017, nous échapperons aux soins providentiels de Dieu. C'est un appel à faire confiance au Seigneur. Dieu marche devant nous. Il conduit nos pas. Il sait, il maîtrise chaque événement, chaque étape de notre vie. Les détails de nos vies n'en sont pas au regard de Dieu. Il va les accomplir. Mais nous comprenons pas tout. On est dans le trou. Faisons simplement confiance. Efforçons-nous. Vous savez, quand Joseph il est dans le fond du trou, la seule chose qu'il voit, c'est le ciel. Et pour nous, quand on est au fond du trou, on doit garder cette pensée-là. La seule chose qu'on peut voir, c'est le ciel. Et quand on garde nos regards fixés sur le ciel, alors on va faire bonne route. Parce que c'est là notre direction. C'est là où on va rencontrer notre Sauveur. C'est là que tout le plan nous sera dévoilé. Et c'est là que, pour l'éternité, on va encore se prosterner et adorer et chanter, célébrer la gloire de notre Dieu.